Interview.
2 jours.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr et je suis avec Lise Barnéou. Bonjour.
Bonjour.
On va parler d'un sujet brûlant, hein, les vaccins, parce que tu as écrit un livre.
Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Immuniser, un nouveau regard sur les vaccins, qui a été publié fin août aux éditions Premier Parallèle, qu'on trouve dans toutes les librairies, notamment Mosaïque.
Notamment Mosaïque, et bah, tiens, on le place tout de suite, tu vas faire une séance de dédicace.
Samedi 25 novembre, donc
c'est ça. Soyons plus précis.
La semaine prochaine, à 11h, on propose une rencontre où je parlerai de mon livre, mais l'idée c'est plutôt aussi de répondre aux questions.
Oui, voilà, on dit une dédicace parce que c'est ce qui se fait dans les librairies, mais en fait...
Une rencontre.
C'est une rencontre. Voilà. Ce livre a aussi, du coup, comme le sujet est brûlant, un peu tourné. Hein, t'as pu t'exprimer sur quelques médias, notamment.
Non, c'est sûr, il y a eu un gros écho médiatique en septembre parce que c'est tombé pile poil dans l'actualité de la nouvelle loi sur l'extension des obligations vaccinales. Et du coup, effectivement, le livre a reçu un bel accueil médiatique. Et puis, ma foi, il se vend pour l'instant il se vend plutôt bien. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir pu participer, disons, à poser certaines données dans ce débat effectivement brûlant et qui parfois dérape, je pense, par manque de rigueur, par manque de respect de la contradiction. Et donc j'avais envie de poser tout ça de manière un peu plus apaisée.
Est-ce que c'est pour toutes les raisons que tu viens d'énumérer là que le livre reçoit un bel écho dans des médias classiques, on va dire, parce qu'il y a eu d'autres choses décrites sur les vaccins?
Il y a eu d'autres choses, oui, mais je pense que ce qui m'a étonné et ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est que les collègues journalistes me disaient qu'ils attendaient en fait un livre comme le mien pour pouvoir parler de manière plus tranquille des vaccins. Très souvent dans les rédactions, il y a des positionnements, comme dans la société en vérité. Le mythe de l'objectivité du journaliste n'existe pas. Et du coup, ils avaient l'impression qu'ils étaient bloqués. Par exemple, s'ils voulaient parler des risques liés à l'aluminium dans les vaccins, tout de suite, on pouvait les détaxer d'être anti-vaccins et leur dire « Non, mais tu ne publieras pas ça dans notre journal, tu commences à perdre la boule. » Et donc, ils me disaient « Voilà, grâce à ce livre, on va pouvoir... accepter de rentrer dans le détail des controverses qui, jusqu'à présent, en fait, on refusait de le faire de crainte d'être mal vu par le supérieur ou même parce que dans la comité de rédaction, ça avait soulevé un tel débat qu'on avait finalement refusé d'entrer dans le détail de la controverse. Et puis, à vrai dire, je dirais que pour pouvoir rentrer dans le détail de ces controverses, et il faut le faire en vérité, ça prend quand même un peu de temps. Pour lire toutes les publications sur le sujet, pour interroger différents experts. Et ce temps-là, je pense qu'il y a peu de journalistes qui avaient pris ce temps de la réflexion au-delà des messages des experts, des autorités de santé publique, etc. De ne pas s'en tenir là, d'aller un petit peu plus loin, d'aller chercher... Toutes les publications disponibles, interroger les uns les autres, ça a été un énorme boulot pour moi. Et une fois que j'ai fait ce boulot, je me suis dit, bon, on va quand même valoriser ce travail-là par autre chose que les articles que j'avais pu faire jusqu'à présent.
Comment est-ce que tu as construit ce livre? Donc, en te documentant d'abord beaucoup, en ayant lire tout un tas de publications, à la fois pour et contre, hein, d'ailleurs, on peut imaginer qu'il y a du pour et du contre sur le sujet des vaccins.
On peut l'imaginer.
Bah ouais, c'est marrant parce que très souvent, les scientifiques s'écharpent alors avec des oppositions complètes sur un sujet en vendant tous les deux le fait qu'ils ont raison, par exemple.
Bah, alors, comment j'ai écrit ce livre? Je dirais que je l'ai écrit avec deux casquettes différentes. J'ai aussi voulu l'écrire en tant que mère, qui, voilà, je me suis posé toutes ces questions aussi
vaccin
au,
ou pas.
Au moment de, des ouais. enfants, vaccin, quel vaccin, pourquoi, comment, quand. Et aussi, je dois dire, donc ma, je le raconte dans mon livre, mais ma fille et moi-même avons eu une rougeole, donc ma fille avait 2 mois. Et donc un âge où on n'est pas encore vacciné, hein, contre, on commence à vacciner plutôt à 3 mois, et la rougeole à 1 an. Et donc ça m'avait interrogée, parce que moi j'avais jamais été aussi malade, et je me disais que, voilà, que ma petite fille de 2 mois devait avoir les mêmes symptômes que moi, et ça m'effrayait quand même un peu. Et forcément ça interroge, on se dit, bah tiens, si je fais partie des... Enfin si ma fille ou moi d'ailleurs faisons partie des 1 sur... Voilà, je m'étais penchée dans la littérature scientifique, hein, je suis un peu obsédée par les chiffres et les données, les datas, voilà. Et donc j'en avais conclu qu'entre 1 sur 1500 enfants ou sur 2000 faisaient avaient des conséquences graves et irréversibles de la rougeole, notamment de problèmes neuronal, on va dire. Il y a quand même pas mal d'enfants qui peuvent perdre une partie de leur capacité cognitive à la suite de ce genre de virus. Et donc, je me disais, bon, statistiquement, 1 sur 1500, c'est pas beaucoup, mais imaginons que ma fille fasse partie de ces 1 sur 1500, comment j'aurais réagi moi, autour, avec mes... Voilà, aussi dans le contexte de Die, où ça avait été un gros spot de l'épidémie.
À ce moment-là,
à ce moment-là, ouais. Donc entre 2008 et 2011, en France, on avait une grosse épidémie, mais localement, on avait de nombreux cas liés à une faible couverture vaccinale sur ce vaccin-là. Et donc, voilà, c'était aussi une interrogation, je dirais, plus personnelle. Et puis après, j'ai écrit ce livre avec ma casquette de journaliste scientifique, capable de lire voilà, les articles scientifiques, les données d'épidémiologie.
Les comprendre,
les décortiquer, comprendre ouais. les biais, comprendre les résultats, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut dire, mais aussi qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, parce que c'est aussi important de savoir qu'est-ce qu'on ne peut pas dire à l'issue d'une publication. Donc voilà, je me suis servi de ces deux casquettes-là pour écrire un livre où j'avais l'impression qu'effectivement, il y a des livres qui existent sur les vaccins, mais j'en avais peu vu du point de vue d'un parent, d'une part. Enfin, écrire un livre sur les vaccins du point de vue je dis d'une mère parce que je suis une mère, mais, et puis aussi parce que statistiquement, j'ai l'impression que c'est quand même souvent...
les mamans qui se posent
cette
question.
Les mamans qui amènent les enfants au PMI, etc. Mais...
Et qui donc se prennent la pression sociale.
Voilà, hein. C'est ça, se prennent ouais. la pression sociale, se prennent le chou avec leur mari aussi, des fois. Mais je pense qu'il manquait un livre vraiment du point de vue des parents. Et puis
C'est-à-dire avec une sensibilité supplémentaire, quelque chose de moins rigoureux.
Peut-être par rapport à des ouvrages, je ne sais pas, par exemple, en début d'année, là, il y a eu 2 autres livres sur les vaccins, en plus du mien, là, cette année, enfin, qui ont retenu mon attention, en tout cas. Et c'était à chaque fois des professeurs de l'Institut Pasteur. Mais il n'y avait pas cette dimension affective ou certaines questions ne leur paraissaient vraiment pas légitimes parce qu'ils parlaient en tant que chercheurs de l'Institut Pasteur. Et donc moi, j'ai voulu un peu renverser ça. Et puis ensuite, j'ai voulu aussi regarder le dossier de manière très pragmatique, vaccin par vaccin, en me fiant vraiment aux chiffres.
C'est-à-dire les 11 qu'on nous propose aujourd'hui ?
Même plus, parce qu'en ouais, vérité, il ouais. en existe plus que 11.
Ouais,
mais,
oui.
mais donc voilà, décortiquer ce dossier brûlant en le rendant beaucoup plus rationnel, en fait.
Alors, tu parlais d'un DIWA assez peu couvert en couverture vaccinale, voilà, c'était ça le terme, assez peu protégé. La France, paraît-il, est statistiquement le pays qui se vaccine le moins.
Alors, non, la France est le pays... Oui, ce qu'on dit, c'est que la France est le pays qui se méfie le plus des vaccins. Mais après, en vérité, en couverture vaccinale, on n'est pas si mal. Je dirais qu'il y a 3 vaccins pour lesquels, effectivement, on est plutôt en dessous de la moyenne. C'est le vaccin contre le méningocoque C, le vaccin contre la rougeole et le vaccin contre l'hépatite B, où là, on n'est pas... Voilà, on n'est pas dans la moyenne de nos pays, des pays européens. Mais pour toutes les autres vaccinations, diphtérie, tétanos, polio, on est très très bien. Voilà, 98% des nourrissons, ou en tout cas plus de 90% des nourrissons sont vaccinés avec les autres vaccins. Par contre, ce qui est vrai, ce qui a été mis en avant par la ministre pour justifier aussi sa nouvelle loi, c'est qu'il y a une défiance en France Et on prétend qu'elle est plutôt supérieure aux autres pays. Et là-dessus, on fait référence à une seule étude internationale qui portait sur, je sais plus, une cinquantaine de pays. Et on posait des questions vraiment très globales. Et notamment, il y en avait une qui était la suivante. Pensez-vous globalement que les vaccins soient sûrs? Et à cette question, 40% des Français ont répondu non ou plutôt non. Et ça nous plaçait effectivement en tête de tous les pays interrogés. Moi, je voudrais juste souligner que cette question, elle est tellement globale qu'elle veut absolument pas dire que 40% des Français sont contre les vaccins. Ça veut dire que 40% des Français s'interrogent sur l'innocuité de certains vaccins ou de tous les vaccins, mais plus probablement certains vaccins. C'est-à-dire qu'un Français qui va s'interroger sur l'innocuité, je ne sais pas, du vaccin contre l'hépatite B, parce qu'il y a eu ce grand scandale dans les années 90, à cette question, il va répondre « Non, moi, je ne suis pas vraiment sûr que les vaccins sont sûrs en général. » Et donc, il va être tout de suite classé parmi les 40% de défiants. Mais en réalité, si on va dans le détail, la défiance, elle est plus subtile que ça. C'est pas forcément un rejet global des vaccinations.
Alors dans les défiances quand même, dont on entend beaucoup parler, on va tout de suite, et tu l'as cité tout à l'heure, l'aluminium dans les vaccins, le principe de s'inoculer des matières dangereuses, des métaux compliqués dans le corps, alors qu'il y a un paquet d'autres médicaments dont on ne s'est pas posé la question de ce qu'il y avait dedans avant de le consommer. Mais pourquoi est-ce que ce truc-là fait un peu consensus et finalement devient le stigmatiseur, on va dire, scientifique, hein, l'espèce de caution. Voilà, parce qu'il y a de l'alu, on ne veut pas ce produit.
Alors, ce que je peux déjà faire, c'est faire un état des lieux de ce que permet d'affirmer et les incertitudes que soulèvent les études actuelles. Ce qui est assez surprenant quand même, c'est qu'on s'est rendu compte que très récemment, que l'aluminium contenu dans les vaccins pouvait, chez certaines personnes, et ce n'est pas la majorité, c'est plutôt même une infime partie de la population, pouvait rester au niveau du site d'injection, comme un tatouage, si vous voulez. Quand on injecte un aluminium, on va garder, certains d'entre nous, des particules dans le muscle, des particules d'aluminium dans le muscle, et qui peuvent s'apparenter à une cicatrice, à un tatouage. Et donc ça, on s'en est rendu compte là, il n'y a pas si longtemps, et quand même, ça a secoué certaines personnes en se disant « Waouh, en fait, il n'est pas évacué, il reste dans le muscle ». Donc ça, c'est ce qu'on appelle ce tatouage, c'est ce qu'on appelle la myofasciite à macrophage, parce que c'est dans le muscle, donc myofasciite et à macrophage, parce qu'en fait les particules d'aluminium sont boulottées par les macrophages, qui sont des cellules immunitaires chargées d'évacuer nos substances étrangères. La question, par contre, qui n'est pas résolue, c'est qu'est-ce qu'elle devient ? Qu'est-ce que deviennent ces particules d'aluminium ? Est-ce qu'elles restent ad vitam aeternam dans le muscle ? Ou est-ce qu'à un moment donné, elles vont migrer ? Et notamment, une des hypothèses, est-ce qu'elles pourraient migrer dans le cerveau et créer des symptômes, et notamment le symptôme de fatigue chronique qu'a développé donc le chercheur français Romain Guérardi. Et c'est pour ça qu'en France, c'est un gros débat, parce que c'est une équipe française qui a principalement travaillé sur ce sujet. Et donc voilà, on en est à l'état d'hypothèse. Est-ce que ces particules qui restent dans le muscle peuvent migrer ? Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le seul élément qu'on a, c'est des études chez la souris. Et c'est ce qui est dommage, parce que la souris, métaboliquement, enfin, c'est pas le même, physiologiquement, est assez éloigné de l'homme. Par exemple, chez l'animal, on utilise plus volontiers le cochon pour faire les analogies avec la physiologie humaine.
Pardon.
Mais donc, les études chez la souris ont montré qu'effectivement, les particules d'aluminium pouvaient migrer d'abord dans nos ganglions et ensuite dans le cerveau. Mais pour faire cette étude, on a dû attacher aux particules d'aluminium des substances fluorescentes qui, elles-mêmes, modifient aussi la cinétique de ces particules. Et puis, on ne peut pas transposer à l'homme. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on en est à ce moment où on sait que certaines... un faible pourcentage de la population conserve cet aluminium dans le muscle. Est-ce que parmi ces personnes-là, l'aluminium va finir par migrer dans le cerveau et engendrer des symptômes ? C'est l'hypothèse de Romain Guérardi qui n'est pour l'instant pas vérifiée et pas étayée par des travaux qui pourraient être validés par d'autres scientifiques. Donc pour moi, sur cette controverse-là, on se rend compte de deux choses. D'abord, c'est qu'elle concerne un faible pourcentage de la population. Et ensuite, qu'on n'a pas assez d'infos dessus et qu'il faudrait vraiment encourager la recherche. Et au-delà de l'équipe, de la seule équipe en France qui travaille sur ce sujet, donc encourager la recherche pour vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec cet aluminium. Est-ce qu'il y a un risque pour certaines personnes? Parce que l'équipe en question semble montrer qu'il y a une prédisposition génétique de ces personnes à mal évacuer l'aluminium. Donc est-ce qu'on peut les diagnostiquer en amont? Voilà, toutes ces questions qui, en fait, de manière assez surprenante, n'avaient pas encore fait l'objet d'études approfondies, devraient aujourd'hui être vraiment encouragées.
Voilà, donc c'est ce que permet hein, principalement ce livre et ton travail, Lise Barnéou, c'est que voilà, une porte ouverte vient peut-être d'être pas si autant enfoncée que ça, l'aluminium, alors que c'est vraiment pointé comme étant un des problèmes majeurs de ces vaccins. Du coup, question subsidiaire, tu parlais tout à l'heure du risque potentiel pour un nourrisson d'attraper la rougeole, alors que de toute façon, il pouvait pas être vacciné, et donc des effets secondaires qu'il pourrait avoir avec la maladie. Pareil, là, il y a l'aluminium qui peut éventuellement toucher quelques personnes, mais pas tout le monde. Certains vaccins, on entendait parler du BCG, qui avait aussi quelques effets secondaires, mais dus à sa composition. Donc à chaque fois, ça touche un nombre infime de personnes. Pourquoi finalement cette méfiance se généralise? Le principe même de précaution devrait nous dire que bon, bah, s'il y a un danger sur une ou deux personnes, à terme, ça pourrait se généraliser.
Moi, je pense que la défiance, elle vient de plusieurs éléments. D'abord, je pense que ce n'est pas anodin, à 3 mois, de faire vacciner, de faire piquer son enfant. Je veux dire, c'est finalement, si on y réfléchit bien, c'est le premier acte qui génère de la douleur. C'est le premier acte intentionnel qui génère de la douleur chez nos nourrissons. Et ça peut un peu heurter. Et puis, on injecte quelque chose dans l'organisme. Donc forcément, ça questionne. Ça, c'est un premier point. Mais ensuite, je dirais que l'ensemble des controverses qui ont eu lieu ces dernières décennies en France, que ce soit lié directement au vaccin ou aux médicaments, ou à l'industrie pharmaceutique, ou même à l'industrie agroalimentaire, enfin voilà, tous ces scandales font qu'à un moment donné, on est en droit aussi de ne plus faire totalement confiance ni dans ces industriels, ni dans nos autorités, en l'occurrence de santé publique. Et ça, forcément, ça génère quand même des incertitudes et des doutes. Et je pense que si on regarde précisément les vaccins et qu'on regarde un peu l'histoire récente en France, on se rend compte quand même qu'il y a eu deux gros scandales qui ont pas mal secoué les parents, mais au-delà, même tous les Français. C'est d'abord le scandale de la campagne de l'hépatite B dans les années 90 qui avait été très très mal menée, et puis ensuite la campagne de vaccination contre H1N1 où aussi on s'est rendu compte qu'il y avait des gros loupés. Et donc ça a vraiment commencé quand on regarde les datas de la méfiance par rapport à vis-à-vis de la vaccination, on se rend compte que juste après 2009, là, 2010, il y a eu tout à fait un effondrement de la confiance que les Français avaient envers les vaccins. Donc c'est tout à fait lié en fait aussi au scandale qui font la une des journaux en France, au scandale sanitaire. Je dirais que pour répondre à cette défiance, une des solutions, c'est effectivement de rentrer dans ce côté très pragmatique, de regarder, bon ben, très bien, les vaccins, c'est comme des médicaments, oui, il y a des effets secondaires, aucun vaccin n'est sûr à 100%, aucun vaccin n'est efficace à 100%, le niveau d'efficacité et le niveau de sécurité des vaccins est très largement supérieur à la plupart des médicaments, mais il n'empêche que comme n'importe quel acte médical, il existe des risques inhérents à la vaccination. Est-ce qu'on pourrait pas à un moment donné poser les choses calmement et regarder vaccin par vaccin, parce que ça devient complètement inutile en fait de parler de la vaccination dans sa globalité vu les spécificités de chaque vaccin, les enjeux de chaque vaccin, puis même les avantages et les inconvénients de chaque vaccin. On ne devrait plus parler de la vaccination en général, ce serait comme parler des médicaments en général. Il faut donc avoir un regard vaccin par vaccin et à un moment donné poser quels sont les risques de ce vaccin-là versus les risques du virus contre lequel ce vaccin nous protège. Quels sont les avantages de se faire vacciner contre ce virus-là versus quels seraient les avantages de ne pas se faire vacciner? Enfin voilà, tout poser et puis ensuite essayer de comprendre l'intérêt à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle collective de chaque vaccin.
Mais cette embrouille, elle vient aussi, là par exemple, très récemment, de la part de notre gouvernement qui, tout d'un coup, vient dire bon, on passe de 3 à 11, enfin bon, puis on les fait tous en même temps, ces vaccins, où là j'entends qu'il y en a qu'il faut faire à des âges différents, mais globalement, ils ne sont pas traités cas par cas, justement, eux-mêmes, dans la communication.
Alors non, dans la communication, effectivement, je suis bien d'accord pour dire qu'il y a un gros souci dans la communication autour des vaccins et cette proposition de les rendre tous obligatoires, à mon avis, va créer plus de méfiance que restaurer la confiance. Par contre, en vérité, dans le fond, ça ne change pas grand-chose parce que les 11 vaccins, ce sont déjà les 11 vaccins que pratiquent la plupart des pédiatres et la plupart des nourrissons reçoivent déjà ces 11 vaccins et on ne les reçoit pas en un coup. Enfin, le calendrier vaccinal ne change pas, sauf pour un, mais ce n'est pas lié à la décision d'étendre les obligations. Mais on va continuer à faire les 5 ou 6 premiers à 3 mois, et puis ensuite les rappels 3 mois plus tard, et puis la rougeole au rayon rubéole à 1 an. Ça ne change pas en vérité. La seule chose qui change, c'est la forme, c'est-à-dire que cette forme de l'obligation, qui à mon avis, c'est une décision qui est basée sur une vision, pour moi, un peu court-termiste de politique, je dirais, de crainte, en fait, hein, qu'une épidémie, qu'il y ait de nouveaux cas de mort ou de séquelles évitables et qu'on puisse reprocher ensuite à la ministre ces décès qui auraient pu être évités. Et...
C'est même pas une question de lobbying, en fait, finalement.
Alors, ouais, moi, j'ai voulu vraiment... essayer de répondre à cette question parce que souvent les gens me disaient oui, mais de toute façon c'est qu'une histoire de gros sous pour enrichir les industriels. Alors je me suis pris la tête à regarder combien ça va rapporter ces obligations aux industriels. Donc j'ai imaginé que sur les 3 vaccins pour lesquels on va gagner des pourcentages d'enfants vaccinés parce qu'on est pour l'instant en dessous de 90 et que du coup forcément on va augmenter, je dirais, jusqu'à 92 ou 92%. Donc j'ai calculé le nombre d'enfants qui allaient être vaccinés en plus à travers cette loi, le prix de chaque vaccin et je l'ai comparé au chiffre d'affaires vaccin de ces industriels. Bon, eh bien, ce que j'ai compris, c'est que cette loi ne pourra pas rapporter plus de 0,5% du chiffre d'affaires vaccin aux différents industriels qui sont impliqués dans ces vaccins-là. Donc pour moi, dans ce cas précis, je ne dis pas qu'il n'y a pas de lobby et je ne dis pas que les enjeux financiers n'existent pas dans les vaccins, mais je dis que dans ce cas précis, de cette décision de passer de 3 à 11, il n'y a pas, pour moi, une vision d'enrichissement de ces 4 ou 5 labos, sauf s'ils s'amusaient, là, dans les années prochaines, à augmenter drastiquement le prix de ces vaccins-là. Concrètement, quand je regarde les chiffres, je me dis non, c'est pas l'argument principal qui a poussé la ministre à faire cette loi. Plus bêtement, je pense que, d'abord, elle a eu peur qu'on lui reproche des morts évitables. Et puis ensuite, ça procède d'une espèce d'habitude... qui est très présente, à mon avis, dans la médecine française et même, je dirais, dans nos experts français, une espèce de vision très paternaliste de la médecine, où l'idée des obligations pour l'intérêt collectif, ça va de soi, et on oublie tout à fait les questionnements individuels, le fait que maintenant, quand un patient arrive chez un médecin, il s'est largement informé avant de venir. Et donc, il a des questions très précises et il veut des réponses. Il n'attend pas juste sa feuille de prescription et il ne va pas aller directement ensuite à la pharmacie pour acheter tout ce qu'on lui a prescrit. C'est devenu une relation beaucoup plus de discussion d'égal à égal. En fait, on n'est plus dans le système... paternaliste de la médecine comme on a pu l'être pendant plusieurs années.
Et justement, cette question de paternalité de la médecine fait que même là, à l'inverse, et on recite encore un petit peu notre Diwa là-dessus, des gens sont carrément en train de sortir le plus possible de cette médecine généraliste, voire même de se soigner tout seul, d'être dans une... Et donc le vaccin vient là aussi, enfin cette obligation vient aussi heurter cette chose-là.
C'est sûr que le côté obligatoire, autoritaire, heurte la notion de liberté individuelle et mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux. Pour moi, en fait, l'important, ce serait d'être beaucoup plus sur l'information et de faire comprendre aussi que c'est que certains vaccins, et pas tous, pour certains vaccins, il y a une question quand même de vivre ensemble qui c'est pas uniquement une histoire de protection individuelle. Donc on peut parler de la rougeole, par exemple, parce que c'est celui sur lequel ça s'exprime le plus, je trouve, avec peut-être la coqueluche, mais c'est dans une autre perspective. Donc la rougeole, on ne vaccine pas les nourrissons contre la rougeole parce que c'est un vaccin qui contient le virus vivant et on considère que c'est trop fort en fait pour les nourrissons. Donc on attend l'âge de 1 an pour pratiquer ce vaccin-là. Et pour la même raison, on déconseille aux personnes immunodépressives, soit parce qu'elles ont des mutations génétiques qui font qu'à la naissance, voilà, elles ont un système immunitaire à plat, soit parce que c'est des personnes qui ont nécessité des greffes, soit parce que c'est voilà, des personnes malades et qui n'ont donc pas les moyens de se défendre contre les virus. Et donc ces personnes-là, on leur déconseille ces vaccins avec des pathogènes vivants. L'idée de vacciner massivement les enfants à partir de 1 an, c'est aussi pour faire diminuer la circulation du virus au sein de notre société. Et faire en sorte que ces personnes-là, donc les nourrissons ou les personnes qui ne peuvent pas se vacciner, n'aient aucune chance de rencontrer ce virus au cours de leur vie, sachant que ce virus, pour eux, peut avoir des conséquences plus graves que pour les autres. Et donc là, effectivement, on touche du doigt le côté collectif. Dans une école, si un enfant a un problème d'immunité et n'a pas pu recevoir ses vaccins, eh ben, je comprendrais que les parents de cet enfant chercheraient à s'assurer d'abord que tous les gamins soient vaccinés contre la rougeole notamment, pour éviter que leur enfant, lui, le rencontre. Donc voilà, il y a cette dimension collective, mais pour moi, l'obligation ne permet pas n'est pas le bon levier en fait pour prendre conscience de l'intérêt collectif de la vaccination.
Ça me fait penser à toutes ces poules qu'on met toutes ensemble dans un tas en batterie et où l'agriculteur, l'agro-industriel revendique le fait de leur donner des antibiotiques à longueur de journée parce que sinon elles tomberaient malades. Mm-hmm. On dirait la même chose là, parce qu'on est tous dans la même école, alors il faut que tout le monde mange tous les médicaments, que tout soit clean, bien nettoyé, ISO 9002, tout ça, bref.
Non, mais on peut aussi garder ses enfants et faire école à la maison si on n'a pas envie de les soumettre à la circulation des virus. Je dis juste qu'aujourd'hui, quand on veut vivre une vie moderne dans notre société, qu'on accepte d'aller prendre le métro, qu'on accepte d'aller dans des concerts avec 500 000 personnes autour de nous, qu'on accepte de faire des manifestations, qu'on accepte l'autre, qu'on accepte d'accueillir l'étranger, qu'on accepte voilà, le brassage des gens, à un moment donné, ça veut dire qu'on accepte aussi le fait d'avoir tous ces virus qui circulent parmi nous et qu'on accepte aussi, à un moment donné, de protéger l'autre par notre... Je vais vous donner un exemple tout à fait dont je parle aussi dans mon livre. Il y a 3 ans, il y avait eu une photo assez terrible d'un enfant qui était mort, un migrant qui était mort sur la plage.
Oui. Voilà.
Et donc suite à ça, il y a eu énormément d'associations qui se sont créées, notamment ADI, pour venir en aide aux migrants. Donc ça procède d'un mouvement de cœur, aider son prochain. Et j'étais déjà dans l'écriture de ce livre à ce moment-là. Et je connaissais certaines personnes qui étaient dans ces associations-là, ici ou à Paris. Et il y avait certains liens avec le côté médecine alternative, justement. Parallèlement, j'ai couvré une histoire qui remonte à il y a plus de 20 ans, là, qui remonte en 1992 aux Pays-Bas. Donc dans un pays, à l'époque, l'hygiène était tout à fait similaire au nôtre. On n'est pas en train de parler de l'Inde ou de l'Afrique. Et donc dans ce pays-là, il y avait des zones où les couvertures vaccinales étaient très basses, notamment pour des convictions, principalement pour des convictions religieuses. On considérait qu'en fait les maladies c'était une divinité, enfin c'était un choix de Dieu et on n'avait pas à contrevenir à ça. Et en fait on s'est rendu compte que pour la polio, on s'est rendu compte, on le savait, que nos vaccins, pour les vaccins qu'on utilise ici en France contre la polio, ne nous empêchent pas de trimballer le virus en fait. Ils nous empêchent juste, le vaccin empêche juste le virus de nous nuire, mais on peut quand même avoir le virus dans nos intestins sans s'en rendre compte. Bref, une personne était allée en Asie et avait ramené, sans s'en rendre compte, un virus dans son intestin. Et dans les mois qui ont suivi, on a eu 81 paralysés et 2 morts. Et donc, ce qui est intéressant de constater dans cette histoire, c'est que 20 ans plus tard, on est dans une situation où il y a un pays en guerre, la Syrie. Et il se trouve qu'à cause de la guerre, la santé en pâtit, notamment les couvertures vaccinales diminuent et on a une épidémie de polio qui refait son apparition en Syrie. Et c'est le moment où, en 2015, il y a un gros afflux de réfugiés syriens dans les pays européens. Et là, qu'est-ce que décident de faire les Pays-Bas ? Ils décident de fermer les centres d'accueil de réfugiés qui sont localisés dans ces communes où il y avait eu cette épidémie en 1992 et qui ont encore aujourd'hui un taux de couverture vaccinale plus bas que le reste du pays. Et donc, ils ont décidé de ne pas accueillir de Syriens dans ces centres d'accueil de réfugiés localisés dans ce qu'on appelle la ceinture de la Bible. Et je trouve qu'on touche là du doigt une question presque philosophique. Les uns, finalement, refusent la vaccination par idéologie ou par liberté. Et puis, quelque part, cette décision impacte sur la liberté d'autres personnes, et en l'occurrence des réfugiés, de poser leurs valises dans un lieu sûr. Et il y en a certains qui ont comme ça fait un parallèle entre la démocratie et la vaccination. C'est-à-dire que quand on vit dans une démocratie, on jouit de cette liberté, mais on ne se rend pas forcément compte de l'avantage de jouir d'une démocratie. Et à l'inverse, quand on n'est pas dans la démocratie, on comprend que les régimes autoritaires peuvent tuer. Et quand on profite de la vaccination, c'est pareil, on jouit de ces avantages sans bien se rendre compte de quoi il s'agit. Et quand on n'a plus accès, et bien pareil, il peut y avoir des catastrophes et on se rend compte des bienfaits aussi de la vaccination. Et je dirais qu'en fait, le fait que les Pays-Bas aient fermé leurs portes aux réfugiés syriens dans ces situations à faible couverture vaccinale, moi, ça m'a beaucoup interrogée aussi sur les choix individuels versus les décisions collectives. Et en vérité, la question aurait pu se poser dans d'autres endroits, comme a dit, où il y a eu aussi un mouvement d'accueil des réfugiés et où, à mon avis, la couverture vaccinale est tout aussi assez équivalente à celle de ces communes-là.
Et où personne ne s'est posé la question de s'il y avait un risque ou pas, d'ailleurs.
Et heureusement, d'ailleurs, l'objectif, c'était juste de tendre la main vers l'autre. Mais sauf que si on regarde les choses de manière pragmatique en termes de santé publique, on pourrait quand même se poser la question.
Et puis le Diwa accueille pas que des réfugiés, d'ailleurs, des gens de partout, tout le temps.
Eh bien, tant mieux. Et c'est ça qui est, et c'est ce brassage qui est beau. Et c'est un brassage qui est en partie aussi possible quand on décide de ne pas transporter soi-même certains virus qui sont extrêmement dangereux.
Avec Lise Barnéou sur l'antenne de Air Diwa, pour ce livre Immunisé, Lise, au départ, t'étais pour ou contre les vaccins ?
C'est ce que je disais, je crois qu'on ne peut pas être pour ou contre.
Non, mais toi, au départ, quand même au départ.
Je me posais des questions.
Et méfiante ou pas ?
Globalement, je faisais plutôt confiance à ce qu'on me demandait de faire.
Ce livre vient poser cette question-là ou pas
de... Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que les retours que j'ai, c'est les personnes qui jusqu'à présent ne se posaient aucune question sur les vaccins.
Ils sont bien emmerdés, mais moi je suis bien emmerdé.
Elles me disent, il y a certaines questions que je ne m'étais pas posées et que tu soulèves. Et à contrario, des personnes qui étaient plutôt complètement opposées au vaccin, qui me disent « Tu vois, j'avais pas pensé à ce côté-là et ça, peut-être que je connais des gens même qui sont allés faire vacciner leur gamin. »
Le lendemain.
Juste après, voilà. Et donc ça suscite des comportements tout à fait opposés en fonction de qui le lit.
Et toi, au fond, qu'est-ce que tu aurais voulu que ce soit un livre qui permette aux gens, du coup, d'aller se vacciner plus ou juste continuer à poser ces questions-là ?
Non, moi, je dirais que mon objectif, alors après on va me dire que je me mouille pas, etc. Mais en vérité, mon objectif, c'est de donner des clés de compréhension, de permettre d'aller dans la réflexion et pas dans le réflexe, de pas penser uniquement par habitude et par idéologie, mais d'accepter de regarder l'ensemble des données contradictoires, de comprendre les limites de ces données-là et de... Et voilà, de se faire un avis construit, je dirais, éclairé sur chaque vaccin et plus une idéologie et plus une croyance pour ou contre. Donc voilà, d'être dans de la compréhension.
Et si justement, là dans le Diwa, je ne pense pas que ce soit des considérations religieuses qui font que ça,
Non.
que les gens sont contre. Tu dirais que c'est pourquoi qu'on est
Oh,
contre?
bah on a, il y a des travaux de géographie, de sociologie qui montrent qu'il y a une influence, je dirais, anthroposophique et liée à cette idée de retour à la terre, de naturalisation, on peut faire avec d'autres outils, on peut se protéger autrement. Voilà, ça va dans un contexte global de médecine alternative, en fait. Enfin, je dirais, dans le Diwa, comme il y a eu un gros travail de fait en Ardèche, et c'est assez similaire, sur les raisons de la défiance vis-à-vis des vaccins et les profils, en fait, les raisons avancées. Alors, il y a ce côté médecine alternative, et il y a aussi un côté qu'on retrouve qui est plus anticapitaliste, ou
Ouais.
voilà, ne pas participer à Big Pharma. Et donc. Voilà, je dirais que c'est les principaux arguments qu'on peut trouver.
Ouais, c'est contre les vaccins, mais en fait contre une société d'une manière générale, quoi. Enfin, contre un modèle qu'on a là en ce moment bien, bien puissant, quoi.
Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre quand on se positionne comme ça, qu'est-ce qui se trouve derrière ces angoisses ou ce refus. Est-ce que, par exemple, quand on dit qu'on ne veut pas participer à enrichir Big Pharma, donc les vaccins, c'est pas pour nous. Est-ce que c'est vraiment très cohérent? Donc le marché du vaccin, dans mon livre, je le dis, on peut plus dire que le vaccin c'est une activité philanthropique, ça c'est faux. Le vaccin rapporte de l'argent, mais ça a rien à voir avec, je sais pas, le marché de la téléphonie mobile par exemple. Enfin, les marges qu'on fait sur les vaccins, ça n'a absolument rien à voir avec d'autres industriels. Et qui font partie aussi de notre quotidien. Donc, c'est assez. Enfin, je veux dire, cet argument, si on l'amène jusqu'au bout, on va loin dans la sobriété après.
La question du cas par cas sur ces vaccins pose aussi la question du cas par cas sur les personnes. Effectivement, un vaccin versus le virus, mais au milieu, il y a quand même quelqu'un, celui qui va porter le virus d'une part ou porter le vaccin d'autre part et qui lui-même peut être sujet à des effets secondaires. On entend parler de recrudescence de situations d'allergie liées peut-être aussi à la prise généralisée de médicaments d'une manière générale avec une mauvaise nourriture derrière. Enfin bon, plein de choses comme
ça.
Ou
la qualité de notre environnement global.
Ouais.
Oui, alors la question de la vulnérabilité individuelle, enfin en tout cas des différences interindividuelles, elle est très forte dans cette thématique des vaccins parce qu'on est là sur un modèle de médecine, une molécule, le même dosage pour tout le monde, quel que soit le moment. Et on se rend compte avec les progrès de la médecine qu'on a des outils en fait pour faire les choses un peu plus finement. Donc c'est vrai que y a pas mal de chercheurs qui s'interrogent si le modèle de la vaccination de masse peut encore tenir au XXIe siècle alors qu'on est sur une médecine de plus en plus personnalisée. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que en fait le vaccin il fonctionne justement précisément parce que c'est quelque chose de collectif et que c'est pas quand on je sais pas, par exemple, si on reprend le vaccin contre la polio, on parle de vacciner l'ensemble de la planète. Et on se rend bien compte que d'imaginer un vaccin personnalisé pour l'ensemble de la... Je dirais que ça risque de placer le vaccin comme un produit de luxe dont se serviraient les pays riches. Et le hiatus serait encore plus grand entre voilà ce qu'on propose aux pays riches qui pourraient se permettre, tiens, toi, t'as des gènes de prédisposition à mal évacuer l'aluminium, et on va te mettre ce vaccin-là. Et puis, on n'a ni l'argent, ni les possibilités de faire tous ces tests en Afrique ou en Asie. Et on donne les mêmes gouttes sans trop se poser de questions. En fait, la crainte de certains chercheurs là, que je rapporte, c'est que en allant vers des vaccins plus personnalisés, on aille vers des produits de luxe, alors que jusqu'à présent, les vaccins étaient plutôt considérés comme des produits collectifs.
Est-ce que tu donnes un avis ?
C'est vrai que je me suis prononcée juste à la fin. Parce que quand j'ai écrit mon livre, il n'était pas encore question de cette nouvelle loi là, sur les 11 vaccins. Donc c'est le seul Disons que dans la postface, je me suis prononcée contre. Enfin, disons que j'ai exprimé le fait que pour moi, de passer de 3 à 11 vaccins obligatoires, on allait plutôt alimenter ce cercle vicieux de la défiance. Et que pour moi, la solution, ce serait de faire un vrai travail d'information. Et en sortant de ce grand récit qu'on a en France, qui est aussi lié à notre histoire, qui est aussi lié à Pasteur, qui est aussi lié au fait que voilà, on a l'impression que les vaccins, c'est un peu le bébé de la science française. Et du coup, on a tendance à oublier un peu les interrogations légitimes que se posent les parents, à oublier les aspects un peu plus négatifs de ces produits, et du coup à livrer un message qui aujourd'hui n'est plus du tout reçu par les parents, parce qu'il y a un décalage trop, trop important. Donc moi je dirais que mon message principal, ce serait de revoir totalement la manière dont on parle des vaccins, d'en parler comme des médicaments, et d'insister voilà, sur des données tangibles, des données chiffrées, où on se rend quand même compte, si on regarde les choses concrètement depuis 100 ans, que voilà, la mortalité infantile a tout à fait chuté. Et certes, il n'y a pas que les vaccins, il y a aussi l'hygiène, il y a aussi l'alimentation, tout ça. Mais c'est indéniable que les vaccins ont participé à améliorer voilà, le bien-être des enfants, et pas que. Et comprendre aujourd'hui encore quel rôle ont les vaccins aujourd'hui, et faire un vrai travail de très pragmatique, en fait, vaccin par vaccin, de ce que nous apporte chaque vaccin et les risques et les avantages de chacun de ces produits.
Et ça passerait par où ? Par dès l'école, par exemple ?
Eh bien, pourquoi pas ? Moi, j'ai vu aussi que dans certains pays, il y a des...
D'ailleurs, excuse-moi, je te recoupe, mais aucun des médicaments n'est enseigné, même en... On mange du paracétamol ou de l'aspirine tout au long de sa vie, par exemple, et il n'y a jamais d'explication, quoi.
Oui, c'est peut-être dommage, mais il faut quand même reconnaître que les vaccins, par rapport aux médicaments, ils ont quand même quelques spécificités, ouais. en ce sens où ils s'adressent à l'ensemble de la population et à des personnes saines. Oui. Donc à partir de là, c'est quelque chose sur lequel je trouve on devrait avoir beaucoup plus d'informations. Alors où est-ce que ça doit se faire ? En Allemagne, par exemple, il y a dès la maternité, il y a des personnes qui viennent expliquer voilà, comment fonctionne le vaccin, les différents vaccins, à quoi tout ça peut servir. Ça, c'est peut-être une idée. Il faudrait peut-être aller voir si ça fonctionne ou non. Je pense qu'il faudrait aussi tout à fait réimaginer dans la formation des médecins comment non seulement apprendre à parler des vaccins, mais aussi apprendre à répondre aux inquiétudes des parents, parce que je pense que quand un parent est inquiet, qu'il va dans une consultation et qu'en face de lui, on lui répond « mais écoutez,
c'est comme ça,
de toute façon c'est obligatoire, et puis les vaccins, c'est sûr à 100%, toute la donnée les prouve », bon ben là ça marche pas, donc il faut accepter de rentrer dans le détail, et encore une fois, quand on rentre dans ces détails, d'abord je pense qu'il y a matière à rassurer, parce qu'on montre que les risques sont quand même d'un vaccin systématiquement inférieur à 1 pour 100 000, 1 pour 300 000, les risques graves. Et à contrario, si on regarde les risques graves liés aux pathogènes dont ils nous protègent, on est plutôt de l'ordre de 1 sur 1000 ou 1 sur 2000, enfin les séquelles graves que peuvent engendrer ces pathogènes. Donc rien qu'en posant les faits, il me semble qu'il y a déjà, voilà, il y a déjà matière à rassurer en fait, les parents.
Je voudrais qu'on termine, si tu veux bien, est-ce que tu t'es penché sur la question des lois ? Parce qu'on parle d'une obligation de 11 vaccins, ça va rentrer dans la loi. Et puis on voit fleurir tout un tas de juristes semi-professionnels ou amateurs qui nous proposent différents textes de loi qui montrent que quoi qu'il se passe, cette obligation ne peut pas avoir lieu. Parce qu'elle vient à l'encontre de lois sur l'information qu'on doit donner aux patients, justement, d'en parler, sur le fait de rendre responsables les parents du fait qu'on inocule quelque chose à leurs enfants, la médecine n'étant pas responsable des risques qui pourraient être engendrés après. Enfin bon, voilà. Est-ce que tu t'es penché là-dessus ?
Non, pas dans le détail.
Non.
Bon, mais ce que dit la loi là, qui a été votée, c'est que... Un enfant non vacciné ne peut pas être accepté en collectivité. Ensuite, que des parents décident de ne pas vacciner leurs enfants et de garder les enfants en scolarité chez eux, ça, l'État n'aura pas son mot à dire là-dessus. En revanche, j'ai compris que il n'y a plus de poursuites pénales et il n'y a plus d'amende pour les parents hein, qui ne font pas vacciner leurs enfants. Et en fait, la ministre essaye de responsabiliser les parents en donnant la possibilité aux enfants qui subiraient en fait des séquelles de pathogènes contre lesquels ils auraient pu être vaccinés. Donc ces enfants pourraient facilement se retourner contre leurs parents. Et donc elle essaye en fait quelque part de trouver des astuces juridiques pour responsabiliser les parents vis-à-vis de la vaccination.
Donc on te retrouve très bientôt, le 25 novembre, à la librairie Mosaïque, pour parler un peu plus encore que là maintenant, pourquoi pas, poser d'autres questions, lire ton livre, se le faire dédicacer, bien sûr. Donc rappelle-nous un peu ses références, où est-ce qu'on le trouve?
Vous le trouvez dans toutes les librairies, ou alors vous le demandez au libraire et il le commande, ça c'est encore mieux.
édition
Premier Parallèle, ça s'appelle Immuniser, un nouveau regard sur les vaccins. Et voilà, je serais ravie de vous rencontrer le samedi 25. Je voudrais aussi juste signaler que la librairie de Die, la Mosaïque, est la librairie de France qui a le plus vendu ce livre. Donc je vous remercie à vous. Et n'hésitez pas du coup à venir poser des questions.
Voilà. Et en même temps, on disait qu'on était peut-être un des territoires qui se vaccinent le moins. Alors c'est peut-être pour
non,
ça.
Il n'y a pas que ça.
Je fais un raccourci.
Puis il y a d'autres territoires. En Alsace, par exemple, les couvertures ne sont pas non plus très, très élevées.
Dernière question, on t'a laissé tranquille pour écrire ce livre? T'as pas eu de pression, vu que le sujet est brûlant?
Non, j'ai pas eu de pression. Non, mes éditrices étaient vraiment, c'était carte blanche. Il n'y a eu aucune intervention de leur part. Et moi, j'ai fait en sorte aussi de me tenir un peu à l'écart des experts, en fait, de les interroger, évidemment, de les écouter. Mais aucun n'a relu mon livre en entier. Sauf une historienne des sciences spécialisée sur les vaccins en qui j'avais totale confiance et qui d'ailleurs a une maison à Die aussi.
Ah tiens.
Voilà, on s'était retrouvé ici.
Et même pour trouver l'information, la collecter, tout ça, c'était facile. Hein.
Alors, disons que je pense que même les industriels sont assez désireux d'ouvrir leurs portes et de montrer, parce qu'il faut le reconnaître, je veux dire, l'industrie des vaccins, c'est quand même hyper impressionnant de se rendre compte des processus de fabrication, des étapes de vérification. Enfin voilà, donc tout ça, ils le font assez ouvertement. En revanche, après, accéder à toutes les données, notamment de pharmacovigilance menées par les industriels, non, ça n'a pas été toujours facile.
Lise Barnéou, merci.
Ben, merci à vous.
Interview. Ok. L'interview du jour.